Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs. Nous sommes en février 2026 et vous écoutez une interview de Proxy Jeux réalisée lors du Festival International des Jeux de Cannes. Proxy Jeux, c'est le podcast qui vous parle de jeux de société. Je suis Caducée et je suis accompagnée aujourd'hui d'Elodie. Bonjour Elodie.
Salut Caducée.
En forme pour ces séries d'interviews.
Carrément.
Eh bien parfait. Et aujourd'hui, nous accueillons Roberto Fraga, auteur de jeux depuis l'an 2000. Bonjour Roberto.
Bonjour, je suis en forme aussi.
On t'a préparé une petite série de questions, si tu le souhaites. On a un fil rouge pour débuter l'émission. Tu vas pouvoir répondre de façon très libre à un style de portrait chinois, si ça te convient.
Okay.
Si tu étais une mécanique de jeu, laquelle serait-ce ?
Une mécanique de jeu, je pourrais le deck building.
Si tu étais un thème de jeu ?
Je serais un thème sur les extraterrestres. La science-fiction, ça me passionne. Donc.
Si tu étais un élément de jeu ?
Un élément de jeu, je serais un pion bleu.
Et enfin, si tu étais un jeu ?
Un jeu, je serais Palazzo Paletti. Et pas très connu, hein, mais je l'adore.
Merci. Roberto, est-ce que tu pourrais te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas ?
D'accord. Donc Roberto Fraga, d'origine espagnole, a immigré il y a bien longtemps et j'habite Saint-Malo. Donc je suis auteur de jeux maintenant à plein temps depuis 2010, puisqu'avant je le faisais en parallèle avec mes différents boulots. Et je crée des jeux depuis que j'ai 14 ans, ça fait un bout de temps. Et le premier jeu publié a été publié en 2001. C'était les Dragons du Mékong, qui s'appellent maintenant River Dragons. Et depuis, on a dû en publier environ 164, un peu partout dans le monde.
Et versus combien de protos ? T'as une
idée ? Oula, en fait, ça doit dépasser le millier, parce que je suis un peu un fou furieux du truc. Mon gros défaut, c'est que je pars dans toutes les directions. Je ne peux pas me concentrer sur un seul projet. Je ne sais pas si c'est une qualité ou un défaut, mais en tout cas, donc c'est comme ça. Donc, j'envoie les protos dans tous les sens. Et là, j'en ai une trentaine. Avant, on était à Nuremberg, j'en avais une quarantaine aussi. Donc, ça n'arrête pas.
Et comment tu passes du stade de proto à je pense qu'il est montrable à un éditeur ?
En fait, moi, je ne sais jamais trop si c'est parfait. Parce que je suis un peu perfectionniste. Pour tout dire, quand j'ai montré Gare à la toile aux Allemands, qui a été édité tel que je l'ai montré. Je n'étais pas sûr que c'était fini, alors qu'en fait, ça l'était. Donc, c'est un peu c'est du feeling, en fait. Moi, des fois, j'ai un bon feeling, des fois, j'ai un mauvais, mais j'aime bien quand je vais sur des salons en profiter et montrer beaucoup de choses, même si des fois, il y a des choses qui ne sont pas encore prêtes à 100%. Je les emmène quand même, et il ne faut pas le dire, hein, y a des fois, il y a des trucs qui se terminent dans la voiture. Mais c'est comme ça. Parce qu'en fait, je travaille super bien sous pression. Plus on approche de l'échéance, plus il y a l'idée. Et je suis comme ça. Et Florence, mon épouse, ça l'énerve un peu parce que les derniers jours avant les salons sont horribles. Mais c'est comme ça. La pression, ça me stimule. Bah, par exemple, à Nuremberg, on a montré un jeu qui a bien marché, que j'ai fait la veille.
Et du coup, Florence, c'est ta première bêta-testeuse, je suppose ?
Oui, bah oui, elle est là. En fait, j'ai de la chance quand même d'avoir Florence parce que c'est rare d'avoir un couple où... d'avoir une épouse qui aime le jeu autant que moi, et en plus, elle, plus que moi encore, elle joue plus que moi, parce qu'en vérité, moi, je joue pas énormément. Enfin, je joue plus que la moyenne, mais pas, je suis pas un ogre qui veut dévorer, qui va passer un week-end à jouer, je peux pas. Mais Florence, ouais, j'ai de la chance. Donc, c'est la première testeuse, et qui se prend, parce que là, je fais le petit gentil, mais faut imaginer quand je m'étais mis plein d'idées dans la tête et que je teste le jeu et que ça fonctionne pas. D'un coup, je suis un peu grognon. Et elle, c'est la première qui se prend les remarques dans la tête. Donc, elle est quand même. J'ai de la chance de la voir. Et elle me suit partout au bout du monde.
D'ailleurs, Florence est ici avec nous. Elle est autour de la table, elle nous écoute. Et si vous entendez des drôles de boum, etc., c'est le stand à côté de nous qui doit être en train de finir de se monter. Et on espère vraiment qu'il ne va pas nous tomber sur la tête.
Tu parlais de ton premier jeu qui date de 2000-2001, River Dragons. Par rapport au recul que tu as là depuis 26 ans, comment est-ce que tu vois que le secteur du jeu a évolué ?
Oula ! En fait, le truc, c'est que nous, on est un petit peu comme on est des dinosaures. Les dinosaures, on a vécu toute l'évolution depuis jeux et stratégie, depuis les festivals où les gens poussaient les enfants pour aller jouer mais les parents jouaient pas, jusqu'à maintenant où les gens viennent lire les règles et tout. On a tout vu l'explosion du nombre d'éditeurs. Et au final, c'est bien. on a une connaissance étendue de tout ce qui s'est passé. Mais j'avoue que là, avec tout ce qui sort, là, je suis un peu perdu. Là. Il y a tellement de jeux qui sortent dans tous les sens. C'est génial, il y a une créativité incroyable. Au niveau illustration, on n'a jamais été à ce niveau-là. On a dépassé les Allemands. Bon, pour l'illustration, c'était facile de les dépasser. Mais au niveau nombre de créations, d'éditions, je pense qu'on est au top. Mais après, d'un autre côté, bah, forcément, ça diminue les nombres de ventes par jeu. Plus il y a de jeux à vendre, moins avant, peut-être qu'on vendait un jeu à 50 000. Maintenant, on en vend 50 à 1000 exemplaires. Et du coup, pour en vivre, ça devient plus compliqué. Mais c'est comme ça. Ça s'est passé dans le monde de la BD. Et on ne peut pas empêcher les gens de vouloir se lancer dans l'édition. Moi, je ne le ferai jamais. Mais donc, c'est pour ça que nous, on a décidé avec Florence d'aller dans des zones de la planète où il n'y a pas trop de concurrence. Par exemple, beaucoup en Amérique du Sud, on y va depuis une dizaine d'années. On a des jeux qui sont sortis là-bas, en Asie, on a même des jeux qui sont sortis en Inde, en Corée, au Japon, où là, il n'y a pas trop de concurrence pour l'instant. Et les gens sont plus curieux, comme il n'y a pas trop de jeux. Donc on va retourner en Argentine pour la 8e fois au mois de novembre. J'ai hâte.
L'Argentine, c'est un nouveau terrain de jeu.
Ouais, ça va être la 8e fois. Ouais, c'est un pays qui est en crise depuis très longtemps, hein, mais il y a une particularité. C'est que comme les taxes douanières sont très élevées, il n'y a que les gens qui ont des revenus importants qui peuvent acheter des jeux importés à 80€, voire plus. Donc du coup, il y a des éditeurs locaux, on les connaît tous, qui produisent localement en Argentine.
D'accord.
Par exemple, l'exemple phare, c'est Dr. Eka. Quand on a signé Dr. Eka avec Blue Orange, j'ai gardé les droits pour certains pays d'Amérique du Sud. Ça peut se faire dans le contrat. Et on l'a signé avec un éditeur argentin qui s'appelle Ruibal Games et qui est un peu le Dujardin argentin. Ça veut dire il fait des jeux un peu mass market et il a 1800 points de vente. Parce que là-bas, ils vendent des jeux partout, même en petite quantité, mais même dans les moindres boutiques, dans les petits villages, les boutiques de jouets, tout d'un coup, il y a un peu de jeux. Et lui, il est partout. Et Dr. Aika, là-bas, il est produit entièrement en Argentine. Et quand on l'a lancé, en 2 ans, ils en ont vendu 10 000 pour un pays comme l'Argentine. C'était quand même pas mal, avec 8% d'inflation par mois. Et depuis, on va les voir tous les ans. Et là, on a signé avec eux, on doit avoir 5-6 jeux. Chaque année, on en sort un. Pour la petite histoire, on avait un jeu chez Blue Orange qui s'appelle Discover, un jeu avec de la musique. Du coup, Blue Orange l'arrête, là. Il est déjà, après 2 ans et demi, 3 ans, il est déjà chez Nose. Et au moment où il l'arrête, il sort en Argentine. En fait, un jeu n'est jamais mort. Moi, quand un jeu s'arrête, je le représente. Il peut très bien avoir une deuxième vie, bien meilleure que la première. Vous savez quel est l'exemple le plus flagrant là-dessus? C'est Bazar Bizarre. C'est un jeu à bas, ça a été repris par les Allemands, par Zor, et voilà le résultat.
On t'avait reçu en 2015, la dernière fois, à nos micros, et tu parlais effectivement déjà de l'Inde, de l'Amérique du Sud.
Ouais.
Ça a été étendu en partie avec l'Asie, on entend beaucoup parler de jeux de société et d'Asie récemment, hein, ça devient un peu centré.
On a commencé avec, on est allé faire une sorte de conférence sur le jeu, avec il y avait Antoine Boza, Mathieu Despneau, Yann Parovel à Séoul. Et du coup, là-bas, on a rencontré, ils m'ont présenté un Coréen. Ils m'ont dit, tiens, tu vas voir, on va te présenter le Fraga Coréen. C'était Yohan Go. Il était tout jeune à l'époque. Il avait fait Fold It déjà. Et du coup, on a commencé à faire des jeux ensemble. Alors ça pourrait être mon fils. Et on est complètement opposés géographiquement. Et puis au final, on s'est liés d'amitié. Maintenant, on fait des trucs ensemble. On a fait plein de... Il vient à Saint-Malo de temps en temps. Il a participé à des événements qu'on organise aussi, tout ça.
On l'a reçu sur nos micros l'année dernière. Ouais. Et il nous a parlé de ton gong.
Ah oui.
Comme quoi,
j'ai un gong dans le bureau. Les gens me demandent pourquoi il y a un gong. J'ai dit,
dans le fameux Fragalab, c'est ça.
Mais ça devenait nécessaire de construire un bureau. Tout était en vrac dans mon grenier. Et à un moment, voilà, faut se mettre en valeur. Donc on a fait ça bien. Les gens ont l'impression que c'est une boutique. Il y a tout un mur de jeux.
Mais c'est un endroit qui t'est personnel ou tu reçois quand même du monde?
On reçoit du monde, ouais. On frime un peu, quoi. C'est logique. Et ça sert aussi de QG pour les activités bénévoles, etc.
D'accord.
Donc il y a tout ça. Donc l'Asie, ça a commencé comme ça. Puis après, on est allé au Tokyo Game Market. Et puis bon, l'Inde, c'était une expérience qui s'est arrêtée là parce qu'on a du mal à trouver le bon interlocuteur. Parce qu'en Inde, la notion de royalties, elle est un petit peu différente. Ils te payent quand tu signes un contrat, ils te payent avant, c'est pas de problème. Mais alors après, pour les relever et tout ça, on veut toujours voir comme le prisme un peu européen, voir comme si c'était, mais c'est pas la même chose. Et en Argentine, ça se passe bien. On a des jeux qui sortent au Brésil. On va aller faire un festival en juillet à Sao Paulo, qui s'appelle le DOF, le Diversa Offline. C'est la plus grande convention de jeux d'Amérique du Sud, où on va présenter un petit stop ou encore qu'on a fait pour un petit éditeur de Rio de Janeiro. Et moi, j'aime bien ça, l'idée de mélanger tourisme et jeux, parce que du coup, ce qu'il y a de bien, c'est que quand on va quelque part, ben, on voit des gens. Et ça, c'est génial. Et quand on va en Argentine, on connaît tous les clubs de jeux de Ushuaia jusqu'à la frontière bolivienne. Et à chaque fois, on y va, on amène deux jeux, on a quatre valises, on leur laisse des trucs, ils n'ont pas les moyens d'en apporter. Et puis, on leur montre les nouveautés, et puis on se fait des amis. Et pour la petite histoire, il y a un truc qui est rigolo, en fait, c'est qu'il y a 2 ans, on a participé au plus grand événement en Argentine. C'était à Mar del Plata, au sud de Buenos Aires, qui s'appelle l'Encuentro Nacional de Juegos de Mesa. Et on a présenté des trucs pendant 3 jours et on a fait une visio avec l'organisateur d'un festival de jeux à Yaoundé au Cameroun. Et j'ai mis en relation donc l'organisateur du festival argentin et l'organisateur du festival à Yaoundé. Qu'est-ce qu'il y avait comme connexion entre l'Argentine et le Cameroun à part le football? Du coup, j'ai traduit de l'espagnol au français. Et pourquoi? Bah parce qu'après, on est allé au festival à Yaoundé. Et donc, du coup, c'était génial. On s'est rendu compte que ce soit le gourou du jeu camerounais ou le gourou du jeu argentin, ils ont tous la même préoccupation, les mêmes objectifs. Tu vois, le jeu, c'est universel, en fait.
Bien sûr.
Et que ce soit à Yaoundé, à Tokyo, n'importe où, c'est la même chose. Les gens, ils ont envie de jouer. Et ils sont super curieux. Et au Cameroun, alors là, c'était la folie. Les gamins, ils me disaient, mais pourquoi tu viens? On ne vend pas tes jeux au Cameroun. Je dis, bah, c'est pas grave, on vient pour vous faire jouer. Et non, c'était super.
Est-ce que tu sens des différences de type de jeu en fonction des pays que tu visites?
Bon, là, pour le coup, au Cameroun, il n'y a pas de jeu. Il y a un jouet-club à Yaoundé, mais c'est avec des prix pour les expatriés. Donc. Sinon, ils aiment beaucoup. Il y a pas mal d'éditeurs européens qui leur ont envoyé des jeux à ce festival. Mais ceux qui marchent le mieux, c'est les jeux en bois gigamique. Ouais. C'est logique, hein, tout ce qu'ils ont comme jeu. Il y a des champions de jeux de dames. Et du coup, mais ils adorent les jeux en bois. Il y a un attrait, c'est logique. Donc après, tout ce qui est, ils jouent aux autres trucs. On leur a offert un docteur avec un géant. Bon, bah celui-là, il marche tout le temps. Mais ouais, les jeux en bois au Cameroun. Et sinon, après, en Argentine, l'Argentine, c'est presque un pays européen. Hein. C'est un mélange d'italien, d'espagnol. Ils jouent un peu, c'est comme nous, quoi. Ils ont aussi des cafés-jeux, des clubs de jeux, des événements. Ils se débrouillent. Après, bon, au Japon, ils aiment bien, là, on le sait, hein, la mode des petits jeux minimalistes avec des boîtes comme Wink, etc. Et avec des graphismes magnifiques. Et ça commence à arriver ici. Hein.
Donc là, tu es sur le festival pour présenter 2 jeux, si on a bien bossé, qui sont Yeti Snack et Le Trésor du Temple Perdu, qui est une réédition du Trésor des Mayas, c'est ça?
Ouais.
Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus?
Le Trésor des Mayas, c'est un jeu qui était sorti chez Abba en 2004. Non, 5.
2006, j'ai fait un petit peu.
Ok, merci. En 2006, et qui avait très bien fonctionné en France, à l'époque où il y avait Abba France. Et du coup, au bout d'un moment, il y a eu une version pour plus petit qui était sortie qui s'appelait À vos trésors préparés. Et après, bon, bah, au bout d'un certain temps, Abba les a arrêtés et j'ai récupéré les droits. J'ai revendu d'abord la version pour petit À vos trésors préparés à Ozu. Et c'est devenu Attention Pré-Manger, un truc comme ça. En fait, chez Ozu, j'ai été le premier auteur à signer un jeu chez Ozu. Parce que pour la petite histoire, vous connaissez le loup. Eh bien, la dame qui écrit le loup, qui s'appelle Oriane Lallemand, et c'était la femme de mon comptable. Et elle habite à côté de Saint-Malo. Et donc, elle m'a dit, voilà, ça serait bien si tu faisais un jeu sur le loup. Puis au début, comme j'étais un plouc, je disais, mais non, aux zoos, ils font pas de jeux. Mais si. Et au final, voilà où on en est. On a 7-8 jeux chez eux. Et donc, et le trésor du temple perdu, eh bien, ils ont... Je leur présentais à chaque fois, mais comme c'était 7+, et qu'ils n'avaient pas encore... au début, ils voulaient faire des jeux en dessous. Et là, ils commencent à avoir plus large.
À élargir un petit peu.
Et donc là, ça colle. Ils ont refait leur version avec un nom un peu différent. C'est pratiquement la même chose. C'est un jeu de multi-activité où on explore la jungle et on doit avoir de la chance. On doit empiler des poutres en bois parce que pour se protéger, quand on est dans une galerie souterraine, il y a plein de petites épreuves d'habileté à faire dans un temps limite avec un sablier qui peut être caché pour les plus grands ou visible pour les plus petits. Et en général, il plaît très bien parce qu'il est simple et efficace et il y a plein de petites choses dedans. Donc celui-là, ils l'ont très bien fait. Donc c'est ça. Et donc je suis très content du résultat. Et ils ont des chouettes illustrateurs aussi. En fait, Ozu, ils ont la matière déjà au niveau illustration, histoire. Et les personnes avec qui on travaille, les filles sont très gentilles. C'est important, la relation avec l'éditeur aussi. Et après, l'autre Yeti Snack. Alors là, pour le coup, on passe dans un autre univers, puisque de la jungle, on va dans l'Himalaya. Parce que du coup, les aventuriers dans la jungle, après, ils vont voir le Yeti, qui doit ranger son frigo. Et ça, ce jeu-là, il a un matériel atypique, qui c'est des moules à gâteau, des moules à muffins, en plastique souple. Et l'idée, elle est venue juste dans une boutique, une solderie, là, où il y avait des moules. Les gens, ils vont voir le rayon de moules à muffins pour faire des muffins, et Roberto, il va voir les moules à muffins pour faire un jeu. Et du coup, j'ai commencé à le plier, et je me suis dit, oh, tiens, ce serait marrant, et tout. Et c'est venu comme ça. Hein. Souvent, les gens, ils me demandent, mais c'est quoi ton processus? Comment t'as fait? T'as imaginé? T'as fait des stats, des machins? Mais non, moi, je suis pas comme ça. C'est les meilleures idées, elles arrivent en deux secondes. Et Dr. Ecker me demande, mais comment t'as fait? Penser à ça, et puis ça a marché tout de suite. Et là, ça a été le cas. L'idée, c'est qu'on a chacun un moule à muffins de 4x4 et 4 jetons. C'est des jetons de poker, mais qui représentent des ingrédients que le Yeti a dans son frigo, de 4 couleurs, rouge, bleu, vert, jaune. Et on les met suivant une position indiquée par une carte. Et ensuite, on retourne une autre carte et il y a l'objectif. Comment on doit placer les éléments? Ils sont à des emplacements différents. Ils peuvent être empilés, etc. Et donc, comment on fait pour les changer de place? On ne le fait pas à la main, mais on plie le moule, pas en diagonale. Ça a l'air tout con, mais il y a un peu de logique quand même. C'est pas juste dire on va plier n'importe comment.
C'est sacrément casse-tête, oui.
Ouais, c'est casse-tête, ouais.
Faut qu'on s'améliore en jouant.
Oui, bien sûr, ouais. Et il y a des gens qui sont plus doués pour les cartes difficiles que les faciles. C'est bizarre. Mais je ne suis pas tout seul sur ce jeu, parce qu'il y a un petit moment, je bloquais sur un truc. Je me suis associé avec Johan Lemonnier et Delphine Lemonnier, avec qui on a fait Captain Sonar aussi. Et du coup, on est trois. Parce qu'il y a un petit système avec une tasse de thé de Yak. Si par exemple, on bloque, on ne peut pas revenir en arrière. Donc à ce moment-là, on prend la tasse de thé de Yak, on compte jusqu'à trois, on perd du temps pendant ce temps-là, les autres continuent. Et on réinitialise, on remet en position de départ et on continue. Et celui-là, en fait, moi, j'adore les jeux comme ça. Où tu l'installes, t'expliques en deux secondes, et paf, les gens, ils sont dedans. Moi, je suis pas intelligent, je suis pas capable de faire des jeux compliqués. Et mon jeu le plus intelligent, c'est Captain Sonar. Puis j'aime pas passer des plombes. Si je travaille trop sur un jeu, c'est pas bon signe.
Est-ce que tu fais les jeux auxquels t'aimerais jouer?
Ouais, en fait, c'est ça. Je me dis, il y a un moment quand je bute trop sur un truc, je dis, Roberto, comment tu voudrais que ça soit là? Comment tu voudrais que ça soit? Oui, il faut que tu aies envie de jouer à ton truc. C'est arrivé aussi pour la version Star Trek aussi, là, de Captain Sonar. On va en parler si vous voulez. C'est ça qui est important. Et le truc, c'est que j'ai écouté une interview de Bruno Catala, il n'y a pas longtemps. Et en fait, il a mis des mots sur un truc que j'ai pour eux depuis longtemps, mais que je ne savais pas le formaliser. C'est qu'en fait, je m'ennuie, j'ai une capacité à l'ennui très importante. Et même avec des amis que je connais depuis longtemps, si la routine, je peux m'ennuyer. Donc, il faut que je fasse sans arrêt des choses nouvelles. Sinon, c'est horrible de dire ça, hein, mais c'est comme ça. Donc, il faut que je crée sans arrêt. Et je suis toujours en train de créer. Moi, tout ce que j'ai fait avant, ça ne compte pas. Tous les 164 jeux publiés, les milliers de protos, les machins, je me sens pas à hauteur si je suis pas capable de continuer. Avant, c'était avant. Je regarde toujours devant. Donc, je suis super exigeant.
Donc, tout est prétexte à idées.
Ouais, tout est prétexte à idées. Bah, en fait, connaissez l'histoire. Quand les gens me demandent d'où viennent les idées, chaque jeu a son histoire. Pour en parler pendant des heures, mais bon, Dr. Eka, c'est la centrale nucléaire, hein, des ingénieurs qui mettent des barres d'uranium dans les tubes. Là, donc, bon, heureusement qu'on a changé le thème. Mais l'exemple phare que je raconte tout le temps, parce que là, pour le coup, les gens me prennent pour un fou après, c'est Docteur Panic. Je ne sais pas si vous vous rappelez. C'est
oui.
un jeu qui était chez Repo.
Beaucoup joué à Docteur Panic.
Et du coup, alors, là, à cette époque, parce qu'avant de vivre que du jeu, j'ai fait 11 métiers différents. Du coup, mon dernier métier sérieux avant de faire que du jeu, je travaillais sur une vedette garde-côte des douanes. J'étais marin. J'ai été beaucoup sur des bateaux. Et en décembre 2007, on était en train de naviguer dans la Manche. Et on poursuivait un bateau qui transportait soi-disant de la cocaïne. La mer était mauvaise et tout ça. Puis au moment quand on a accosté le bateau de contrebandier, au moment de sauter, il y avait une échelle. Et je sais pas pourquoi, je saute et donc je me suis cassé la jambe sur le bateau de contrebandier, ce qui était une situation un peu périlleuse quand même. Mmh. Parce que... Mais bon. Et du coup, ils m'ont rapatrié à l'hôpital, à Cherbourg. Et il y a un truc qui se passe, c'est que la créativité, elle est activée par tout ce que tu as comme expérience dans ta vie, les voyages, les différents métiers, les choses, mais aussi par les émotions fortes. Tout ça, c'est déclenche des processus. Et donc, c'est là où vous allez dire qu'il est fou. Et donc là, quand je rentre au bloc opératoire, c'est une situation négative. Et moi, je suis toujours en train d'essayer de positiver, parce qu'on peut passer sa vie à se lamenter tout le temps. Là, il fallait. L'anesthésiste arrive pour m'endormir. Et au moment où il veut me mettre le masque, tout d'un coup, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'idée d'un jeu coopératif sur le bloc opératoire. Et du coup, je lui ai demandé qu'il me donne un stylo et une feuille pour noter l'idée. J'avais peur d'oublier pendant l'opération, forcément. Et du coup, et donc je la note, couché. Et ensuite, il m'endort. Et quand je me réveille dans la chambre, sur la table de nuit, il y avait la feuille. Et après, pendant la convalescence, j'ai bossé sur le jeu. Donc, c'est un exemple. On ne saurait pas dire qu'il faut se casser la jambe tout le temps, mais tous les jeux ont une histoire.
Caducée, est-ce que ce genre de truc t'est déjà arrivé? Est-ce que Caducée est médecin urgentiste?
Non, mais par contre, je peux te dire que Docteur Panique est apprécié par les personnes qui travaillent au sein de certains services d'urgence.
Il ne faut pas s'en servir comme kit de formation, hein, surtout
non,
pas.
Non, mais en tout cas, ça permet de détendre un petit peu et c'est bien apprécié.
C'est vrai?
Oui.
Bah, en fait, Florence,
c'est... Au final, tu sais, presque beaucoup plus réaliste que certaines choses auxquelles on a accès dans le cadre de formation pour une, ne serait-ce qu'une gestion du temps, une gestion du stress, une organisation.
Ouais.
De la même manière que j'embraye sur Captain Sonar, mais Captain Sonar, ça peut être aussi utilisé comme un serious game, ne serait-ce que sur l'organisation, la communication, enfin,
justement,
qui
tu
ont
fais
des
bien...
applications dans la vraie vie.
Tu fais bien de dire ça, parce que Captain Sonar, il y a quelques temps, je crois que c'était l'année dernière, j'ai reçu un mail d'une équipe du CHU de Lyon, je ne sais plus lequel, et ils se sont servis de Captain Sonar pour une thèse sur le déchoquage.
Non, mais ça m'étonne pas du tout, parce qu'en fait, on a besoin d'avoir un leader et d'avoir une organisation qui est établie. Et on a toujours besoin d'avoir quelqu'un qui va dire quelque chose et d'avoir un retour positif ou négatif pour savoir où on en est et se coordonner correctement. Et il est évident que Captain Sonar, dans ce genre de situation, permet d'apprendre une façon de communiquer ou l'importance de la façon de communiquer dans un milieu, disons, ludique, en fait, hein, qui nous sort un petit peu de notre quotidien. Mais effectivement, c'est une très bonne utilité de Captain Sonar.
Mais du coup, j'ai eu l'aide de Florence, parce que Florence était infirmière en cardiologie. Donc du coup, au moment de faire les cartes avec des instruments, elle me donnait des noms trop sérieux et elle est partie, elle s'est absentée pour faire un truc. Et après, j'ai créé des noms et elle m'a dit « mais c'est vachement mieux que des trucs trop... »
Ouais, en tout cas, le massage cardiaque sur le cœur qui fait pouic-pouic, c'est toujours très apprécié.
Mais bon, c'était une époque, mais malheureusement, il n'a pas trouvé son public. C'était une façon de... C'était difficile de faire comprendre aux gens ce qu'ils vivaient en jouant en boutique. Donc bon, c'est pas grave, on verra plus tard.
Et là, tu disais que tu avais des publications chez Matago aussi qui allaient arriver?
Ouais, en fait, chez Matago, on est pas mal connectés, hein, puisqu'on a sorti pas mal de choses. River Dragon, c'est là, ils sont en train de refaire en Kickstarter, ils vont refaire une version géante de River Dragons. Il y en a déjà une, mais là, ils vont refaire une avec un plateau recto verso, avec une taille différente en dessous, parce qu'il y a des fois des tables qui sont pas assez grandes. Donc ils font ça, et surtout on a travaillé sur une version Star Trek de Captain Sonar, donc avec Johan Lemonnier et Delphine Lemonnier, parce que c'était un rêve d'Arnaud, puis même de nous, parce que donc c'était soit Star Wars, Star Trek, c'est une question de licence, hein, forcément.
Bien sûr.
Et là, pour le coup, c'était un peu long. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, on tournait en rond, on n'arrivait pas à trouver le truc, ça pouvait un peu dériver vers la demi-usine à gaz, et à un moment, on s'est dit, bon là, il faut se ressaisir. Qu'est-ce qu'il faut il faut que ça te donne envie de jouer, de rejouer immédiatement, tout de suite. Et en fait, c'est Delphine qui a eu l'idée brillante. C'est que Captain Sonar Star Trek, en fait, ça se joue à 4. On peut jouer aussi à 2, 3, 4. Mais en simultané, ce qui était un peu le désavantage de Captain Sonar, où c'était juste à 6, 7, 8. Et donc là, celui-là, on peut jouer en simultané à 2, 3, 4. C'est ultra speed, hein, les parties, elles durent 15 minutes. Et la particularité... Donc il y a juste capitaine détecteur, c'est que la carte est recto verso. D'un côté c'est l'espace normal et de l'autre côté c'est l'hyperespace. Et dans l'hyperespace il y a deux fois moins de points, on va deux fois plus vite et on recharge l'énergie deux fois plus vite. Ça veut dire qu'on passe son temps à sauter pour charger très vite et réémerger au bon endroit en faisant gaffe aux astéroïdes. Et donc c'est génial, on est sans arrêt en train de retourner la carte, faut sans arrêt voir la correspondance entre les points aussi. Ça c'est une super idée. Ouais, j'ai hâte, normalement c'est pour SN. En fait, Captain Sonar, c'est un de mes jeux préférés de Roberto, parce qu'on vit une expérience. Chaque fois que les gens m'en parlent, ils me racontent comme s'ils avaient vécu un film. Et on a fait des tournois, mais la première année où on est allé à Buenos Aires, à peine descendu de l'avion, il y avait un club de jeu là, qui nous a accueillis en plein Buenos Aires, dans une maison où ils étaient 50 ou 60 à jouer partout, dans toutes les pièces. Ils venaient d'acheter une boîte et ils voulaient battre l'auteur. Et donc, à la cave, ils avaient installé le jeu, et puis une caméra pour filmer en direct sur les réseaux argentins, la déroute de Roberto Fraga. Et les Argentins, c'est quand même un mélange d'espagnol et d'italien, donc c'est un peu tonique. Hein. Et du coup, et la partie, ça a été tout le monde hurlait dans tous les sens, je me rappelle très bien. Et puis le mécano adverse à la fin, il y a son capitaine qui lui a dit « Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire ?» Et il lui a dit « Nada, nada, no se puede hacer nada !» Et on est arrivé, on les a achevés. Mais tu vois, c'est des souvenirs comme ça. On en a plein dans tous les sens. Ouais, donc ça, c'est un de mes jeux. Je suis le plus satisfait parce que j'aime les jeux où on vit une expérience. Dans Squad 7, on vivait l'expérience de la jungle, Docteur Panic, du bloc opératoire. Et Captain Sonar, l'expérience du sous-marin. Donc, ouais, là, on est très contents.
Bah, on va aller sur la fin de cette interview. Est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter ?
Ajouter ? Qu'est-ce qu'on a ajouté, Florence ? On a des trucs à ajouter ? Non, c'est que sinon, il faut... notre ami Camerounais qui organise le festival, il aimerait bien qu'un autre auteur vienne. Et à chaque fois, on demande, mais si quelqu'un y va, si on y va, c'est pas pour vendre des jeux. C'est juste pour faire plaisir aux enfants et aux adultes. Donc, ça serait bien que... Je pense que c'est important d'essayer de voyager pour aller voir un peu ce qui se passe partout dans le monde ludique. Il n'y a pas que la France. On est un peu le nombril du monde ludique. Hein. Mais moi, je pense que le monde ludique, c'est le monde. Et donc pour ça, on est content d'avoir réussi à mélanger tourisme et jeu. Et on n'a jamais eu autant d'amis dans le monde du jeu partout. Et ça, c'est juste génial, quoi. On n'est pas millionnaire, mais on est... Ah ouais, j'aime bien cette phrase. On est millionnaire en amitié, c'est ça le principal. Hein.
Ça fait une magnifique phrase de fin.
Waouh.
Merci beaucoup, Roberto.
Ouais, merci à vous.
Chères auditrices, chers auditeurs, si cette interview vous a plu, partagez-la sur vos réseaux sociaux favoris. Vous pouvez également nous aider en nous faisant un don. Pour cela, vous trouverez toutes les informations utiles sur la page d'accueil de notre site podcast.proxy-jeu.fr, proxy avec un i et jeu avec un x. On se retrouve très vite sur Proxy Jeu pour une autre interview ou un autre format. À bientôt et surtout,
jouez bien.